Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alba pour une émission intitulée Radicaux Libres. Et puis, cette émission, vous pouvez en avoir différents exemplaires, parce que on fait ça un petit peu chaque semaine. Sur quoi? Sur radioalba.com, sur la page de l'émission Radicaux Libres. Cette semaine, on aurait pu vous parler de la guerre. Ah, la guerre, à nouveau, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Toute la semaine, on a eu droit à des études de fouillés du prix du baril du pétrole. Et, ouais, et comme quoi, maintenant, moi, je suis une espèce de spécialiste. Je rappelle qu'à environ 100 millions de barils sont consommés chaque jour. 100 millions de barils. Donc, on comprend pourquoi c'est la panique à partir du moment où il y a un détroit où passe 20% de la production pétrolière mondiale qui va se retrouver bloquée. Et cette semaine, nous avons encore eu le droit à pas mal de propagande, et notamment à des publi-reportages sur la puissance militaire française. Des publi-reportages, par exemple, quand le mauvais acteur, mais vrai banquier, qui nous sert de péter de la rep, va se faire voir sur le porte-avions. On n'en a qu'un, il en faudrait deux. Eh oui, c'est vraiment, c'est véritablement la priorité des priorités. Donc, quand le pété de la rep va se faire voir sur le porte-avions français le mardi 10 mars, on a pu entendre ceci sur France Info.
La mer Méditerranée est partout tout autour, la crête à quelques kilomètres et dans le ciel, un hélicoptère qui se pose sur la piste de bitume du porte-avions Charles de Gaulle.
Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, monte à bord.
Emmanuel Macron, à quelques pas des avions Rafale stationnés sur le pont, avant de s'engouffrer dans le hangar, le ventre du porte-avions, là, discours au milieu de 500 militaires de la marine, au garde à vous. Que les images sont belles pour célébrer la puissance militaire française venue en renfort de Chypre, en tout premier, vante-t-on dans l'exécutif, contrairement, tenez, aux Britanniques qui n'ont pas sorti.
Eh, moi, franchement, j'ai cru à du second degré, mais finalement, que les images sont belles, le reste du son d'une certaine Marie Mollet et du même acabit. D'ailleurs, on reprend.
Que les images sont belles pour célébrer la puissance militaire française venue en renfort de Chypre, en tout premier, vante-t-on dans l'exécutif, contrairement, tenez, aux Britanniques qui n'ont pas sorti une seule frégate. Emmanuel Macron...
Donc... Vous avez bien entendu, une petite pique anti-britannique, on se croirait, au temps de Mercel Kébir. Mais alors, d'où vient-elle cette petite pique? Vient-elle de l'exécutif? Vient-elle de Marie Mollet elle-même? A-t-elle pris cette initiative? Rien n'est dit dans le publi-reportage. Mais continuons.
Contrairement, tenez, aux Britanniques qui n'ont pas sorti une seule frégate. Emmanuel Macron, venu donc consolider sa position de leader de la défense européenne, montrer aussi que l'Europe n'est plus simple spectatrice du conflit et veut peser, mais sans combattre.
Eh oui, Emmanuel Macron est le leader de la défense européenne, ni plus ni moins. La question de la réalité de cette fonction ne se pose même pas. Il est juste venu la consolider, cette place, il l'a. Il faut par contre la consolider. Déployer des forces militaires et permettre la présence des médias pour faire de belles images et de beaux sons est une technique de propagande éculée. La puissance d'un porte-avions fait toujours son petit effet. Cette posture de guerrier d'Emmanuel Macron, on l'avait déjà vu dans des photos le montrant boxant un sac de frappe viril à souhait, comme un vulgaire Vladimir Poutine, avec ses lunettes à la Top Gun également, et dans des déclarations fuitant à dessein où il serait obligé d'envoyer des gaz sur le terrain en Ukraine. Déployer des forces militaires et permettre aux médias d'en faire la publicité a toujours servi à ressouder la population. Et il semblerait que ça marche, si on en croit les sondages dans lesquels le mauvais acteur mais vrai banquier repasse la barre des 20% d'opinion favorable. Alléluia. Enfin, déployer des forces militaires et être un média invité à commenter ce déploiement peut booster une carrière journalistique. Mais pour cela, il faut que votre papier ou votre reportage soit des plus révérencieux. Ah, que les images sont belles. La réalité est tout autre. Chaque jour depuis le 28 février, chaque jour, des civils sont tués et blessés, des villes abritant des humains sont détruites par des bombardements, de part et d'autre, des vies sont brisées, des traumatismes ancrés en Iran, en Israël, au Liban, dans les pays du Golfe. Et pour quel bénéfice? On ne le répétera jamais assez, comme le journal Haaretz en Israël, Benyamin Benjamin Netanyahou, premier ministre d'un gouvernement d'extrême droite en Israël, a besoin d'une guerre éternelle pour ne pas se retrouver devant les tribunaux pour des faits de corruption. Donald Trump, qui se vantait en 2005 de faire ce qu'il veut des femmes, par exemple les attraper par la chatte, a besoin de détourner l'attention des fameux dossiers Epstein, qui sortent malgré tout, petit à petit. L'idée de sauver les Iraniens des religieux qui les gouvernent n'est même plus recevable pour défendre quoi que ce soit de ce conflit. Depuis que le même Trump a indiqué qu'il veut être impliqué dans la désignation des nouveaux dirigeants, la démocratie ne ressemble pas à la désignation de représentants par une puissance étrangère et qui impose ses choix par l'action militaire. Ah oui, mais ça c'est la démocratie à la Trump. Il existe malgré tout un bénéfice. Le déstockage, je m'explique. Les munitions ont une date de péremption, vérifiée, qui dépend des matériaux utilisés, des conditions de stockage et d'autres critères. Mais les munitions ne peuvent pas être donc produites et gardées ad vitam aeternam. Il faut qu'elles servent. En plus, il faut que les militaires s'entraînent et rien de tel qu'un théâtre d'opération pour véritablement bien s'entraîner. Tout ça in situ. Pour un État comme les États-Unis, dont le budget de la défense représente plus de 800 milliards de dollars en 2023, j'ai bien dit 800 milliards de dollars en 2023, l'activité militaire est essentielle. Elle concerne des millions d'emplois, des exportations importantes pour la balance commerciale et bien sûr des ressources primordiales pour mettre en œuvre l'impérialisme. Une fois ce tableau dressé, que faire ? Eh bien encore et toujours militer contre les armes et les armées. Je ne sais pas quel crétin romain a dit « si vis pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre », mais il s'est carrément gouré. L'existence de Bidas, la simple existence de Bidas, c'est-à-dire des professionnels du meurtre et des armes qui vont avec et générateurs de conflits. Ou alors le gars avait des parts dans une entreprise d'uniformes ou de production de glaives et là, tout s'explique. Depuis le début de la guerre, des milliers de manifestations ont lieu contre le conflit dans le monde entier. Mais les médias préfèrent nous parler d'essence et autres dérivés pétroliers avec des reportages sur toutes les professions qui utilisent leur bagnole pour se rendre sur leur lieu d'exploitation. En gros, sur toutes les professions. Là, ils sont en train d'épuiser le sujet, mais on a eu droit aux fleuristes, on a eu le droit aux ambulanciers, on a eu le droit... Waouh, arrête-toi un petit peu, parle-nous d'autre chose. Dans le coin, il existe une coalition antimilitariste qui s'appelle Guerre à la guerre, guerrealaguerre.net. Et des partis résolument antimilitaristes, comme la Fédération anarchiste, mais aussi une presse comme reporter.net. Et on vous conseille vivement le magazine Silence, revue Silence.net, pour aller un petit peu plus loin que l'écume des choses, qui en ce moment est bien huileuse, cette écume. On aurait pu vous parler également de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Au Mans, elle commence le 7 mars à l'initiative du collectif féministe unitaire qui a fait jouer le spectacle intitulé « Avec un grand F », comme on dit avec un grand H, par la compagnie Les Gamettes, ça se passait au hangar Créalab. Vous l'avez loupé ? C'est con, vous auriez dû venir. Le 8 mars, dans la matinée, un village de Barnum est monté place des Jacobins. On y trouve le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et l'association Solidarité Femmes 72, qui lutte pour informer les femmes et contre les violences sexistes et sexuelles et les violences conjugales. Eh bien, ces deux associations partagent un stand comme elles partagent des locaux rue du Puy de la Chaîne, une rue perpendiculaire à l'avenue de la Libération, si vous avez besoin, c'est au 52. On y trouvait aussi le planning familial qui est situé place de l'Éperon dans l'immeuble du Maine Libre, comme on dit. Dans ce village se trouvaient également des syndicats CGT, FSU, Sud, Confédération Paysanne. Tiens, la CFDT n'était pas là. Non, l'UNSA non plus. Ah bah, c'est bizarre quand même. Et un parti, l'Union Communiste Libertaire, l'UCL. Bon bah d'ailleurs, dans ce stand de l'UCL, on pouvait jouer au chamboule-tout et faire tomber des boîtes de conserve décorées chacune de la bobine d'un mec problématique. Tout en haut de la pile, notre actuel ministre de la Justice. Ah, comme quoi il n'y a pas de hasard. Vers 11h30, un cortège se met en marche en direction du palais de justice, puis de la République. Plus de 500 personnes avec des drapeaux, des pancartes, des mégaphones. Autant vous dire que ça faisait, comme qui dirait, un petit peu de bruit. Oh là, oh là.
Comment
Alors, il y avait des slogans, il y avait du bruit, on veut quoi, on veut... Oh, les gens étaient en train de réclamer des choses, bah, comme quoi, bah, c'est pas mal, quand il y a parfois pas beaucoup, beaucoup de camions sono, il y a parfois des gens motivés. Eh bien, il y avait aussi des pancartes faites maison, sur lesquelles on pouvait lire, par exemple, « Mieux vaut être gros ou grosse qu'être un gros facho ». Et puis, il y avait également une pancarte indiquant « Féministe égale antifasciste ». Clairement, hein. Une pancarte complétée par une autre, d'ailleurs, un petit peu derrière, qui rappelle que le féminisme, c'est égal à être contre le sexisme, alors que le masculinisme, c'est égal à être contre les femmes. Pas tout à fait identique. Et puis, bien sûr, l'indéboulonnable Game Over, avec O... le over est marqué au vert. Alors que je n'ai toujours pas vraiment compris, il faudrait que j'aille demander un jour. Le cortège militant en question arrive à la République et du camion de la CGT, qui est en tête, émane cette douce mélodie. Ah, c'est rock'n'roll. Bon, alors, il aime les filles, mais il aime plutôt les filles de la CGT qui savent se révolter et chantent le poing levé. Bah, attention, il y a de la rime. C'est un certain Pérez Stro... Pérez, j'étais sûr de le louper, Pérez Trotska, voilà, alors vous avez vu, il y a une espèce de jeu de mots, ça date de 2005, et c'est un hymne aux filles de la CGT qui, je le rappelle, savent se révolter et chantent le poing levé. Dans le cortège qui commence à descendre la rue Gambetta, il y a aussi des femmes et des hommes et des gens que je ne voudrais pas mégenrer, derrière la banderole des féministes d'un parti dont je ne peux pas parler, élection oblige, en l'occurrence le groupe féministe s'appelle Du Pain et des Roses, c'est le nom de l'orga féministe en question. Si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle Du Pain et des Roses. Mais pourquoi ? Eh bien, va falloir faire un petit tour en Argentine après être passé par le Massachusetts au début des années 1910. Comprenne qui pourra. Banderole derrière laquelle une centaine de personnes se met à chanter ça. Ben j'espère que ça a été compris, hein. Ce son est un appel à se soulever. Moi, à la place du patriarcat, je commencerai à compter mes abattis parce que tout ce beau monde a l'air très 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 motivé. La manif continue avenue Rostov-sur-le-Don et un arrêt a lieu devant les escaliers qui mènent à la mairie où... non, je peux pas en dire plus. Élection oblige. Un cercle se forme et une quinzaine de femmes entonnent une chanson écrite en 1971 par des militantes du MLF. Une chanson qui rappelle la condition des femmes, mais aussi de tous ceux qui sont soumis aux diktats du libéralisme économique.
Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, défendons-nous des milliers. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout.
Et je dirais là encore que le debout n'a pas à être genré, hein, parce que ce serait pas mal d'éviter d'être assis dans son canapé à regarder le monde évoluer dans un sens qui, à mon avis, est tout pourri, ou alors assis devant son écran à tweeter pour je ne sais pas trop quoi sur ce qu'on a mangé ce midi. Bon, bah oui. Il existe cet hymne a ensuite été repris par les Rosies qui tout au long du chemin ont fait plusieurs stations pour chanter différentes chansons et surtout pour danser sur différentes chansons. Et bien sûr les marches des escaliers, les Rosies ont repris également cet hymne qui est donc un hymne du MLF qui date de 71 et qui est toujours malheureusement d'actualité. La manifestation rejoint alors son point de départ, place des Jacobins. Près de 600 personnes à la fin, vous auriez dû venir. Parce qu'en démocratie, qui se contente de faire de la publicité pour des têtes de gondole électorales motivées pour la plupart par le gîte, le couvert et le pouvoir, eh ben finalement, vous participez pas vraiment à la démocratie. Bon, bah, c'est pas une raison pour ne pas aller voter. Personnellement, je donne mon avis à chaque fois qu'on me le demande. Et personnellement, même quand on ne me le demande pas. En tout cas, comme dirait la compagnie Joli Môme, c'est dans la rue que ça se passe. On a préféré vous parler finalement de la forêt. Bon, bah, au risque de me répéter en tant que média soumis aux règles de l'ARCOM, nous ne pouvons pas parler politique avec les élections. De fait, dans ce cas, la politique se limite à la politique politicienne, c'est-à-dire les écuries qui poussent des poulains et permettent à des vieux chevaux de retour d'essayer d'être encore une fois le détenteur d'un mandat en faisant croire qu'ils représentent la population, alors qu'ils alimentent la plupart du temps leur carrière, parfois finissante. Cette phrase trop longue est au masculin, mais ça s'adapte très très bien à toutes les femmes qui veulent imposer leurs égos avec la même finalité, devenir puissantes. Alors, bah, on va faire de la politique sans parler de la droite, de la gauche et de leurs satellites, mais en parlant de l'exploitation des milieux de vie, de toute la faune et de la flore par des animaux humains avides de rentabilité, si ça c'est pas politique, et notamment de forêts, afin de ne pas déborder ni sur la droite ni sur la gauche, sans parler du centre. Je me suis dit qu'on pouvait repasser une interview, oui, faire parler quelqu'un, parce que sinon... Et bah, mes commentaires à propos d'un livre d'Alain Persuit, petit retour sur dans le temps, pardon. Nous sommes en janvier 2024, la librairie Thuard accueille un forestier qui accepte de répondre à nos questions. Cette première partie, puisqu'il y en aura une deuxième la semaine prochaine, dure un peu plus de 11 minutes. Et ben ça commence comme ça. L'idée de présenter des forêts, ça peut sembler s'éloigner de nos sujets habituels, mais en parlant des forêts, on va tenter de remettre certaines choses à l'endroit, en l'occurrence dans la société actuelle. Le concept de forêt est passé par les fourches caudines de l'économisme. Cette tentation de tout définir et mesurer en fonction du rendement attendu, souvent à court terme, toujours à court terme. Seulement l'économie, entendez la version libérale, ne devrait rien avoir à faire avec l'entretien d'écosystèmes, comme on dit. Et pourtant, voilà les court-termistes libéraux qui se targuent de créer des forêts. Vendredi 19 janvier, la librairie Thuard au Mans accueillait un forestier, Alain Persuit, qui se présente très très bien lui-même.
Voilà, je m'appelle Alain Persuit, je suis forestier écologue de métier. Depuis pas mal de temps maintenant, j'essaye de rencontrer un maximum de gens pour leur parler des problèmes que rencontre la forêt, notamment de l'industrialisation de la sylviculture, et des moyens de répondre en tant que citoyen, tout le monde n'est pas forestier ou écologue, des moyens de répondre à cette pression sur nos forêts, parce que ça fait partie d'un patrimoine qu'on peut considérer comme étant en danger.
Il était présent à la librairie Thuard le 19 janvier pour un livre paru aux éditions Double Ponctuation en 2022 et qui s'intitule « Sauver les forêts ». Alors ben, du coup, on a commencé comme ça.
Le livre que vous présentez aujourd'hui à la librairie Thuard s'appelle « Sauver les forêts ». Alors à qui en fait vous adressez cette injonction ?
Alors l'injonction, je la destine à tout le monde un petit peu justement parce que dans le métier de forestier, c'est un petit monde les forestiers entre eux. On n'est pas beaucoup, on est d'ailleurs de moins en moins, alors que la forêt, ça relève d'un patrimoine, qu'elle soit publique ou privée, ça relève d'un patrimoine qui appartient à tous. On en a besoin pour une multitude de raisons. Alors la forêt n'est pas en danger de déforestation comme les forêts tropicales, elle est en danger, le mot n'est pas de moi, de malforestation. C'est-à-dire de gestion de plus en plus industrielle au prétexte de transition écologique, ce qui est assez cynique quand on examine un petit peu la problématique.
Ah ouais, ils sont vicieux les libéraux. Hein. Alors la malforestation dans le Wiktionnaire. Wiktionnaire, c'est un projet de dictionnaire associé à Wikipédia. On peut lire ceci. Malforestation, non féminin, néologisme péjoratif, foresterie. Gestion forestière médiocre ou simpliste, souvent à visée uniquement financière et méprisant les aspects écologiques et sociétaux de la forêt. Voilà, fermez le banc, tout est dit parce que la quantité n'est pas tout, sauf pour un libéral en économie qui ne souffre pas de croire que plus c'est forcément mieux. Non, pour lui, ça paraît normal. La forêt en France représente 17,5 millions d'hectares, soit 175 000 km², un tiers à peu près de la surface du pays. Alors, Dit comme ça, on peut penser que tout va bien. Seulement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. À peu près 20% de cette surface, ce ne sont pas des forêts, mais plutôt autre chose. Continuons à écouter Alain Persuit décrire ces fausses forêts composées de pins maritimes et sapins Douglas, vite poussées, vite coupées, vite vendues.
Alors, malforestation, ce serait comme le mal développement ou les problèmes d'alimentation. On se nourrit, mais on se nourrit mal. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe-t-il ? En quoi les forêts qui sont fabriquées, je ne sais pas comment le dire, actuellement, ne sont plus des forêts ou mal forestées ?
Alors, vous avez deux types de forêts, bien sûr. Vous avez les forêts comme la forêt des pins maritimes des Landes ou la forêt de Douglas qui tend à gagner de plus en plus l'est de la France, qui ne sont pas des forêts au sens écologique du terme, qui sont des plantations. Donc, qui n'ont pas les milieux adaptés à la forêt, qui n'ont pas la faune et la flore qui sont normalement présentes dans les forêts. Ce qui se passe, c'est que cette progression de la forêt industrielle, de plantation, elle est due à des grandes coopératives forestières qui fonctionnent comme des sociétés marchandes. Leur principal souci, c'est la rentabilité. Alors que le métier du forestier traditionnel, c'est d'agir dans le temps. Moi, pendant ma carrière de forestier, j'ai fait des choses que je ne verrai pas. C'est les générations futures qui les verront. Et ça fait partie de la satisfaction qu'on a à exercer ce métier-là. On a changé d'échelle, si vous voulez, dans la gestion des forêts. Je ne suis pas contre la gestion des forêts, puisque je suis forestier. Mais la forêt, ce n'est pas une usine. Ce n'est pas une usine à produire du bois. Le bois avec lequel on se chauffe et dont on fait des meubles ou des charpentes, etc., normalement, il doit provenir d'une forêt qui est gérée traditionnellement, sans coupe rase, progressivement, sans pression de l'industrie. Ce n'est pas un milieu qu'on peut forcer comme ça, d'une manière innocente. Or, c'est ce qu'on constate de plus en plus, justement au prétexte de ce que l'on appelle la transition écologique. On essaie de faire croire aux gens que se chauffer au bois ou acheter du bois, c'est forcément écologique, puisque c'est un matériel effectivement écologique. Le bois, c'est le plus beau des matériaux. Seulement, tout dépend de la façon dont il est produit. Donc, je fais partie des forestiers et des écologues qui se battent contre ce changement de paradigme dans la gestion forestière. C'est contre l'industrialisation et pour une sylviculture environnementale.
Parce que nous voilà donc de plus en plus avec des monocultures forestières et les mêmes causes amenant les mêmes effets. La monoculture a eu des effets délétères sur les milieux quand on parlait d'agriculture, que ce soit dans l'économie de plantation des colonies, de la canne à sucre et que de la canne à sucre, du coton et que du coton, du cacao et que du cacao, mais aussi en Europe avec les grandes plaines céréalières sans rotation des cultures, des qualités nutritives du sol et donc des produits qui poussent dessus, fin de la biodiversité, exposition plus importante des cultures aux maladies. Nous voilà dans le même bateau au niveau de la foresterie. Une forêt de plantation qui prend de plus en plus de place pour les adorateurs de la croissance du PIB. Mais pour la biodiversité, on repassera. Ainsi, des coupes rases dont parle Alain Persuit. Une parcelle, on la fait pousser. Et puis, cette monoculture, à un moment, arrive à maturité. Au bout d'une trentaine d'années, hop, on coupe tout. Avant d'être replanté, alors pour les animaux, les insectes et les autres plantes qui avaient réussi à s'implanter sur la parcelle, rien n'est viable. Et du coup, il n'y a plus personne sur un ensemble qui est un carré, un rectangle, un bout de soi-disant une forêt qui est en fait une plantation. Le milieu est alors totalement détruit. Mais il faut savoir que la biodiversité n'est pas l'objectif des grandes coopératives forestières. Prenez par exemple Alliance Forêt-Bois, un regroupement de coopératives qui grossit depuis plus de 60 ans, à la manière des coopératives agricoles du reste du monde agricole. Septième point du manifeste pour une forêt de plantation rédigé en 2012 par Henri Chaperon, ancien directeur de la coopérative agricole et forestière sud-atlantique, la CAFSA, l'une des composantes de l'Alliance Forêt-Bois. On peut lire: il faut préserver et favoriser la biodiversité naturelle, lisières, bordures de cours d'eau, préservation des zones humides, bouquets de feuillus préexistants, tout en évitant d'entrer dans le système complexe impactant l'intérêt économique. Exemple, les mélanges d'espèces ou d'objectifs au sein d'un même peuplement aboutissent souvent à des échecs techniques et économiques. Ah bah voilà, l'introduction aurait dû nous alerter hein, dans ce fameux manifeste pour une forêt de plantation. Il est dit, mais qu'est-ce qu'une forêt de plantation ? La forêt de plantation se positionne d'emblée dans le champ économique. Le concept de forêt de plantation est précis et permet de spécifier la politique qui doit l'accompagner. Elle suppose un investissement initial qui doit être rentable pour le sylviculteur et implique le plus souvent un lien fort avec l'industrie. De fait, ce qui intéresse les producteurs de bois, c'est bien la rentabilité à court terme, soit quelques dizaines d'années pour une forêt. Ah, mais en fait, c'est pas une forêt, c'est une plantation. Aussi, les défenseurs d'une sylviculture environnementale parlent plutôt de liniculture pour ces plantations uniformes qui se multiplient. Mais qu'est-ce que cela est-il donc ?
Ce que vous appelez les forêts, enfin les plantations, la forêt industrielle, la filière industrielle de la forêt, ce sont donc toutes ces parcelles que l'on voit où les arbres sont alignés, il n'y a pas du tout de sous-bois, rien ne pousse au pied, pas d'animaux, etc.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une gestion forestière qui se rapproche de plus en plus de l'agriculture industrielle. On plante, on coupe de plus en plus tôt, 30 ans ou 40 ans maintenant pour le pin maritime, voire pour le Douglas. Et puis une fois que tout est coupé, eh bien on décompacte les sols puisqu'on l'a compacté avec les grosses abatteuses. On replante et on recoupera 40 ou 30 ans plus tard, etc. Donc c'est plus du tout les cycles normaux de la vie d'une forêt traditionnellement. Dans une chênaie charmée par exemple qui est gérée en futaie régulière ou en futaie irrégulière, un arbre, un chêne, ça se coupe à 120 ans. Ce sont des mélanges d'essence aussi ces forêts-là, ce n'est pas des grandes monocultures de résineux qui sont extrêmement fragiles, eu égard d'ailleurs au changement climatique.
C'est ce que vous appelez la liniculture qui remplace de fait la sylviculture qui s'occupait des bois, des forêts. Mais là, ce serait de la liniculture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Exactement. Ben, vous avez bien résumé la chose. Liniculture, culture du bois, sylviculture, culture de la sylve, c'est-à-dire de la forêt, sylva en latin. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que la forêt, la gestion forestière, elle relève d'une gestion industrielle qui n'est intéressée que par la production de bois. Or, la sylviculture, elle s'intéresse à la production de bois, mais elle s'intéresse aussi à la préservation de l'eau, à la préservation des sols, au dégagement d'oxygène et à l'accueil de la biodiversité. La liniculture se moque totalement de ça, en prétendant faire des choses très vertes, etc., puisque stockant du carbone. Seulement, l'industrialisation de la forêt est en train de faire en sorte que de plus en plus de forêts ne stockent plus du carbone, elles dégagent du carbone. On inverse un petit peu ce qui se fait depuis des siècles. Donc ça inquiète beaucoup à la fois le monde des écologues et le monde des forestiers.
Ah, la honte, hein. Bah ouais, en plus, ils nous vendent ça comme étant bien. En effet, depuis une étude parue dans Nature, la revue scientifique, en 2014, une étude qui a mobilisé des chercheurs durant 80 ans. Et quand même, étudiant plus de 400 espèces, 400 essences d'arbres, et plus de 600 000 arbres. Voilà, moi, quand j'ai lu les chiffres, je me suis dit, ah ben les gars, ils ont bossé quand même. Et ben il apparaît que contrairement aux idées reçues, les gros arbres, qui souvent sont vieux, absorbent plus de carbone que les jeunes, qui fabriquent bien moins de matière. Les arbres piégeant le carbone pour faire du bois, eh ben les gros arbres continuent à en piéger même quand ils sont vieux. Dans le résumé de l'article paru en janvier 2014 dans le numéro 507 de la revue Nature, sous la direction d'un certain N.L. Stephenson, on pouvait lire en anglais, et là ça sera en français parce que sinon ça va devenir n'importe quoi, « Malgré les progrès dans notre compréhension de la productivité à l'échelle des feuilles et des peuplements, il n'existe aucun consensus sur la nature de la productivité à l'échelle de l'arbre individuel, en partie parce que nous manquons d'une évaluation empirique globale permettant de déterminer si les taux de croissance massive absolue des arbres, et donc l'accumulation de carbone, diminuent, restent constantes ou augmentent à mesure que les arbres augmentent en taille et en âge. Nous présentons ici une analyse globale de 403 espèces d'arbres tropicaux et tempérés montrant que pour la plupart des espèces, le taux de croissance massive augmente continuellement avec la taille des arbres. Ainsi, les grands et vieux arbres n'agissent pas simplement comme des réservoirs de carbone sénescent, hein, et qui vont crever incessamment sous peu, mais fixent activement de grandes quantités de carbone par rapport aux arbres plus petits.
Eh ouais, ça cote un petit peu sec, je suis désolé. Mais en effet, hein, tout ça est sourcé. Vous pouvez retrouver les informations dans la revue Nature, numéro 507, dont on vous a parlé. Alors, ben, en 2026, l'actualité des forêts, elle se retrouve sur le site du réseau Canopée, canopée.ong, sur celui également du groupe national de surveillance des arbres, gnsafrance.org par exemple. Alors comment faire pour garder des forêts ? Quelles sont les actions de nos soi-disant représentants ? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. On vous rappelle que pour vous informer localement au niveau militance, au niveau activité culturelle, vous pouvez d'abord retrouver le bidule et puis également aller sur sarthe.demosphère.net et puis larnapé.info. Et ben voilà, on n'a plus qu'à se dire allez, au revoir.